piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié, et je rends grâce au Christ Jésus notre Seigneur, qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montrât toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
Le sujet de la première épître à Timothée est l'ordre qui convient à la maison de Dieu sur la terre. Il y a donc un contraste évident entre la première et la deuxième épître à Timothée. Dans la deuxième, nous voyons alors ce qu'est devenu le témoignage du Seigneur, une grande maison où il y a du désordre, comme le chapitre 2 le montre. Dans la première épître à Timothée, il est donc question de cet ordre qui convient à la maison de Dieu. Et c'est peut-être là une des raisons pour lesquelles Dieu est particulièrement mis en évidence dans cette épître. Comme on le sait très probablement, il n'est pas question de Dieu le Père, hormis, bien entendu, la salutation où l'apôtre dit à Timothée « Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur ». À part ce passage, dans le corps même de l'épître, jusqu'à la fin, il n'est pas parlé de Dieu le Père, et c'est le cas pour les trois épîtres dites pastorales, les épîtres à Timothée et l'épître à Tite. Il est en effet parlé de Dieu. Nous pourrions citer rapidement un passage dans chacun des 6 chapitres de cette première épître. Ça ne veut pas dire qu'il soit parlé 6 fois de Dieu dans cette épître. Il en est évidemment parlé plusieurs fois dans chacun des chapitres. Dans le premier chapitre, il nous est parlé tout d'abord à la fin du verset 4e, de cette administration de Dieu qui est par la foi, ce que Dieu administre dans sa grâce, en contraste avec la loi dont il est parlé un peu plus bas, cette grâce dont l'évangile est l'expression et dont il est aussi parlé dans la seconde partie du chapitre, lorsqu'il est parlé de la miséricorde de Dieu et dont l'apôtre avait une pleine conscience. Cette administration de Dieu se manifeste spécialement en rapport avec la maison de Dieu, l'assemblée du Dieu vivant. Du reste, le mot « administration » dans ce verset-là, nous aurons l'occasion de le voir quand nous verrons le chapitre verset après verset. Le mot administration veut dire exactement gestion de la maison de Dieu. Il y a donc déjà cette notion de la maison de Dieu dans l'expression l'administration de Dieu. Ce qui nous retient plus spécialement en rapport avec le nom de Dieu, c'est ce que nous avons verset 11, quand l'évangile est présenté comme étant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Ainsi donc, au premier chapitre, le Dieu bienheureux nous est présenté et dans l'exercice de sa souveraine miséricorde. Au chapitre deuxième, nous avons Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu que tous les hommes, pas seulement les hommes appartenant à un peuple mis à part, comme l'était le peuple d'Israël, mais tous les hommes jusqu'au bout de la terre, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Au chapitre troisième, nous avons alors ce qui pourrait être appelé le point culminant de l'enseignement de l'apôtre dans cet épître, le mystère de la piété qui sans contredit est grand, Dieu manifesté en chair. C'est là le mystère de l'incarnation dans lequel il ne nous est pas permis d'entrer, que Dieu a gardé pour lui-même alors que les autres mystères nous sont révélés. Le mystère de l'incarnation est un mystère que nous ne comprenons pas, mais en présence duquel alors nous adorons de tout notre cœur. Au chapitre quatrième, Dieu est présenté comme étant le conservateur de tous les hommes, spécialement des fidèles. Et au chapitre cinquième, ce chapitre qui nous présente d'une façon très particulière l'ordre qui convient à la maison de Dieu, dans ce sens que dans ce chapitre 5, il nous est parlé de deux grands sujets, le sujet des veuves, celles, nos sœurs qui sont vraiment veuves, et puis le sujet des anciens. Alors l'apôtre conclut par une adjuration un tel enseignement quand il nous dit ceci, prenant à témoin Dieu lui-même. Le verset 21 du chapitre 5, « Je t'adjure devant Dieu, le Maître souverain et le Christ Jésus, l'homme actuellement glorifié à la droite de Dieu dans le ciel et les anges élus, que tu gardes ces choses sans préférence, ne faisant rien avec partialité. » Donc, l'ordre qui convient à la maison de Dieu est une chose extrêmement importante, puisque l'apôtre, pour Timothée, fait appel à Dieu lui-même, à Jésus-Christ et aux anges élus. Que de telles choses, un tel ordre, de telles exhortations soient gardées. Enfin, au chapitre 6e, au verset 13, « Je t'ordonne, dit l'apôtre, devant Dieu, qui appelle toute chose à l'existence, toute chose, soit dans la nature physique, soit dans le domaine moral et spirituel. Dieu appelle toute chose à l'existence. Nous considérons les œuvres qui sont autour de nous, les œuvres de la création. Dieu les a appelées à l'existence. Mais si nous pensons à une âme qui vient à la connaissance du Seigneur Jésus, ne pouvons-nous pas penser aussi que Dieu est celui qui appelle toute chose à l'existence, à une existence nouvelle, à la possession d'une vie nouvelle, qu'est la vie éternelle. Ces quelques mots d'introduction pour montrer combien Dieu occupe la première place au cours de cet épître. C'est Dieu qui est présenté, le Dieu sauveur, le grand Dieu sauveur, le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et ce Dieu qui a un témoignage sur la terre et qui veut qu'un ordre dans un tel témoignage soit respecté. L'apôtre Paul commence en nous disant ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre espérance. Quand l'apôtre parle du commandement, Dieu l'a commandé, Dieu l'a ordonné, qu'il en soit ainsi pour Saul de Tarse, qu'il devienne son apôtre. Selon le commandement de Dieu notre Sauveur, nous avons là la pensée de Dieu à l'égard de tout homme, de celui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Puis il est parlé de Jésus-Christ, notre espérance, nous avons alors là la part des fidèles, de ceux qui sont venus au Seigneur Jésus et qui ont mis leur confiance en lui. Il est devenu leur espérance. À Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu, le Père, et du Christ Jésus, notre Seigneur. Grâce, miséricorde et paix. On l'a souvent dit, n'est-ce pas, la miséricorde est mentionnée dans les épîtres individuelles, elle ne l'est en tout cas pas dans les épîtres qui s'adressent à des assemblées. Est-ce que cela veut dire qu'une assemblée n'a pas besoin de la miséricorde de Dieu? C'est pas tout à fait sous cet angle-là que la vérité est présentée. L'Esprit de Dieu veut nous montrer que chaque individu, chaque fidèle a besoin de la miséricorde de Dieu. Et nous devons avoir, personnellement, individuellement parlant, chacun cette conscience de la nécessité de la miséricorde de Dieu. Nous sommes croyants, nous avons le bonheur de l'être par la grâce de Dieu, mais comme croyants, nous réalisons que nous sommes toujours des hommes et par là même de faibles êtres et que toujours nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, de sa grâce toujours, de sa paix toujours, de sa miséricorde, individuellement parlant, nous en avons toujours besoin. L'apôtre va nous en parler au cours de ce chapitre, la miséricorde, que veut dire ce mot, le cœur de Dieu pour la misère de l'homme, le cœur de Dieu pour la misère de celui qui est un croyant et qui réalise que toujours, quant à lui-même, il est un être faible. Que Dieu nous accorde de réaliser personnellement cette conscience de la nécessité de la miséricorde de Dieu à notre égard, à mon égard.
Et sous lequel Dieu nous est ainsi présenté, c'est en effet bien remarquable. Le Dieu sauveur, il a été insisté sur ce caractère de celui de qui descend le salut, comme nous le chantons quelquefois. Le Dieu sauveur, et qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il est présenté aussi, et à deux reprises, sauf erreur, au chapitre 3, verset 15, puis au chapitre 4, comme le Dieu vivant, comme le Dieu vivant. Et s'il est un Dieu vivant, c'est un Dieu qui opère, qui agit, et qui agit par son esprit, et qui agit selon sa propre volonté, mais qui agit selon sa grande grâce envers nous, envers les pécheurs qui en ont besoin, nous tous nous l'étions, et nous en avons besoin toujours davantage à mesure que nous avançons dans ce monde. Il est d'autre part le Dieu bienheureux. Il est appelé le Dieu bienheureux, et à plusieurs reprises dans cet épître, tout particulièrement. Le Dieu qui jouit d'un bonheur dont nous ne pouvons avoir évidemment aucune conception véritable, parce que nous ne sommes pas Dieu, mais dans lequel il veut introduire des hommes. Et il a fait tout ce qui était nécessaire pour cela. Il veut nous faire participer à ce bonheur. Le Dieu bienheureux, Dieu sauveur, le Dieu vivant, le Dieu bienheureux. Et il est le Dieu qui habite la lumière inaccessible. Et il est le souverain. Et c'est peut-être sous ce caractère-là de souverain, et souverain par rapport non seulement à l'univers en général et au gouvernement de ce monde, mais spécialement en rapport avec ceux qui lui appartiennent, avec ceux dont il s'occupe, et dont il s'occupe en ayant devant lui tout ce qu'ils font, toutes nos activités, tout ce qu'il en est de notre marche ici-bas. Il veut nous faire participer à son bonheur, mais nous pouvons y entrer véritablement que de la mesure où notre marche est conforme à ce qu'il a révélé de lui-même et ce qu'il a révélé en Christ, car tout est en Christ. Dieu vivant et Dieu bienheureux, Dieu souverain, tel est le Dieu sauveur. Et il est d'autre part celui qui est présenté comme l'immortel, comme celui qui habite la lumière inaccessible, celui qui est invisible. Que de caractères nous sont ainsi montrés de ce Dieu auquel nous avons affaire. Et il y a pourtant, et il y a été fait allusion tout à l'heure, un aspect qui n'est pas abordé proprement dans cet épître. Et cet aspect, c'est l'aspect de la famille de Dieu. De la famille de Dieu. Nous ne trouvons pas notre Père. Dans les Éphésiens, et l'épître aux Éphésiens s'adressait à ceux dont Paul demandait à Timothée de continuer à s'occuper, les Éphésiens. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui est le Père, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est celui qui est notre Dieu, notre Père. C'est ce qui avait été révélé à Marie de Magdala et c'est ce qui demeure. Mais nous n'avons pas proprement ici les relations de la famille de Dieu. Nous les trouverions dans l'évangile de Jean tout particulièrement. Et ce que nous ne trouvons pas ici, pas du tout, c'est le côté si précieux, qui domine toute l'épître aux Éphésiens d'ailleurs, de l'Église, corps de Christ. Nous avons l'Église, l'Assemblée, mais présentée comme la maison de Dieu. La maison de Dieu. Et c'est l'assemblée du Dieu vivant, et l'assemblée du Dieu vivant est tenue de témoigner de ce qu'est le Dieu vivant. Dans le chapitre 3, verset 14, nous avons comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de ce Dieu qui a voulu avoir une maison sur la terre. La notion de l'habitation de Dieu, nous la trouverions tout au long des Écritures, il n'est pas question de s'y arrêter, mais la maison de Dieu. Quelle grande chose! Dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons les deux choses, le corps de Christ, et puis la maison de Dieu, l'habitation de la fin du chapitre 2, l'habitation de Dieu par l'Esprit, ici-bas. Alors là, et de même que le Seigneur Jésus, est présenté sans doute l'auteur du salut, sans doute celui par lequel et par le sacrifice duquel et nous avons obtenu ce salut, et nous avons la vie. C'est aussi grand que possible. Mais il est présenté surtout sous ce caractère du Seigneur. Du Seigneur. Il est Seigneur sur ceux qui lui appartiennent. Il s'agit donc tout particulièrement dans cet épître, non seulement d'un gouvernement général de Dieu et de celui qui dominera un jour sur tout l'univers, mais de la manière dont on doit se conduire étant dans la maison du Dieu vivant. De là, la fréquence, au moins et surtout dans le premier chapitre, du terme commandement ou ordonnance, les choses sont voisines. Ordonnance, commandement, il y a là une autorité à laquelle on se trouve soumis, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Mais c'est une autorité toute différente de celle qui s'exprime par la loi, une loi imposée, une loi de contrainte. C'est le grand contraste de ce premier chapitre, parce que cette autorité est en même temps celle de la grâce, de sorte qu'il sera dit que la fin de l'ordonnance, le but, l'aboutissement, le tout de l'ordonnance qui est laissée par Paul à Timothée pour le bien des Éphésiens, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu qui couvre tout cela, mais un amour qui est un amour exigeant, un amour qui exige l'ordre dans ce qui est appelé du nom de Dieu lui-même, du nom du Dieu vivant, son assemblée. Et cela est accompagné de beaucoup de grâce. Il y a un commandement vis-à-vis de Timothée, il y a des commandements pour vis-à-vis de cette assemblée, des fêtes de l'assemblée en général, de nous tous, bien sûr, auxquels nous avons à prendre garde, mais tout cela, on le sent accompagné comme baigné de grâce, de douceur, en même temps que de fermeté. Même lorsqu'il parle à Timothée, n'est-ce pas, c'est son enfant dans la foi, et il y a une nuance bien précieuse d'affection qui est là, bien que ce ne soit pas ce côté-là qui l'emporte. Et ce qui l'emporte, c'est le commandement qui est donné à Timothée. Mais cela est fait avec une tendresse qui déborde comme malgré elle-même, n'est-ce pas, tellement elle est grande, mais cette tendresse qui est dépassée par les devoirs d'un Timothée. Souvent, il ne dit pas « je t'ai commandé de rester à Éphèse », « je t'ai prié de rester à Éphèse ». Et de la part de ce vieillard vis-à-vis de Timothée encore jeune et qui de toute façon était son enfant dans la foi, il y a là une délicatesse, une condescendance qui nous touche beaucoup. Et il en est ainsi tout au long de l'épître finalement. À la fois très exigeante des croyants parce que il s'agit de se montrer ici-bas ceux qui ont une vie nouvelle, ceux qui ont la vie de Christ en eux, ceux qui sont en relation avec Dieu d'une toute nouvelle manière, avec la nature de Dieu, et qui doivent montrer cela ici-bas, individuellement et comme assemblée. Mais, je le répète, on sent à travers, on peut dire tous les chapitres, cette atmosphère de grâce, de condescendance, de moyens mis à la disposition de ceux qui sont véritablement humbles, de ceux qui sont véritablement soumis, de ceux qui s'inclinent devant la volonté d'un Dieu souverain et d'un Sauveur qui est le Seigneur. Selon le commandement de Dieu, Timothée reçoit une ordonnance, un commandement. Et ça est répété à la fin du chapitre. Je confie cette ordonnance à mon enfant Timothée, selon les prophéties, etc.
Il est très remarquable, en effet, de voir combien la pensée de l'autorité domine tout au cours de cet épître. On a tout d'abord l'apôtre Paul Il est apôtre selon le commandement de Dieu. Dieu l'a commandé, voulant qu'il en soit ainsi concernant celui qui un jour fut Saul de Tarse. Et puis, Paul confie une ordonnance à Timothée. Et puis, Timothée, à son tour, devait ordonner des choses, certaines choses. Dieu a ordonné, Paul ordonne, Timothée devait également ordonner selon l'invitation de l'apôtre Paul. Est-ce que cette succession dans le sens de l'autorité ne nous fait pas un peu penser au centurion de l'Évangile, de ce centurion qui, en Matthieu 8, pouvait dire au Seigneur Jésus lui-même, en Matthieu 8, au verset 7e, le centurion répondit et dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi aussi, je suis un homme placé sous l'autorité d'autrui. Et puis, lui-même avait sous lui des soldats, et il disait à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, à un troisième, fais cela, et il le faisait. Le centurion avait conscience qu'il avait au-dessus de lui une autorité, et puis à lui-même, au centurion, appartenait une autorité à exercer à l'endroit des soldats qui étaient sous lui. Eh bien, de la même manière, l'apôtre Paul était soumis à Dieu, et puis d'un autre côté, avec une ordonnance qui joue un très grand rôle tout au cours de cet épître, a confié à Timothée, et Timothée, à son tour, avait certaines choses à ordonner. Et cela doit nous parler, à nous, frères et sœurs, sur l'importance de l'autorité aux yeux de Dieu, en un temps où un concept d'une telle importance est tellement battu en brèche, où on s'élève contre l'autorité, on ne veut plus accepter l'autorité. Eh bien, nous avons là, entre autres exemples, la première épître à Timothée qui nous montre aux yeux de Dieu ce qu'est l'autorité.
Sur le verset 15 du chapitre 6, n'est-ce pas, quand tu nous as dit, il est parlé de l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, laquelle le bienheureux et seul souverain, donc Dieu, le roi de ceux qui règnent et le seigneur de ceux qui dominent, montrera au temps propre, alors lui qui seul possède l'immortalité, etc. Simplement pour conclure sur cette notion si importante de l'autorité, et des représentants de cette autorité que un apôtre et un délégué de l'autorité apostolique peuvent montrer. Nous n'avons plus d'apôtres, mais nous avons la parole des apôtres. Et nous avons à écouter cette parole, laissant de côté, ou du moins laissant à leur place, la parole des hommes, d'autres serviteurs que les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament.
Quant à cette autorité déléguée, que ce soit l'apôtre Paul ou que ce soit Timothée, son délégué, elle devait être accompagnée d'un exemple. L'apôtre Paul lui-même, qui doit souvent user de cette autorité apostolique, mentionne à plusieurs reprises l'exemple à suivre. Il a montré dans sa vie l'exemple qui est digne d'être suivi. Et quant à Timothée, il en est de même malgré sa jeunesse. Nous le verrons plus tard au chapitre 4e, lorsque au verset 11, il lui dit « Ordonne ces choses et enseigne-les ». Donc, autorité déléguée, il y avait peut-être une embûche, il était jeune, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois le modèle des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
s'il y a autorité à faire valoir de la part du Seigneur, si cette autorité n'est pas accompagnée d'un exemple, elle est certainement battue en brèche et elle n'aura pas d'impact sur ceux auxquels on pourrait s'adresser. Et combien il est nécessaire de prendre modèle, exemple sur soit l'apôtre, soit Timothée, qui, dans leur conduite, pouvaient être cités en exemple.
Timothée est chargé d'un service, service du participant du caractère apostolique. Délégué de l'apôtre, c'est bien ce que, le terme qui conviendrait le mieux. Et encore une fois, il n'y a rien là de péremptoire de la part de l'apôtre Paul. Je t'ai prié de rester à Éphèse. Et dans cet objet, c'est un objet précis, afin d'enseigner la sainte doctrine, et avec cette autorité d'ordonner, et il donne alors un contraste entre la façon dont maintenant l'autorité, qui est l'autorité du Seigneur, l'autorité de Christ, l'autorité de Dieu, qui est le Dieu suprême, est communiquée, est enseignée. Contraste entre la loi qui était donnée à une nation, à un peuple, pour qu'il la garde, et il n'a pas pu la garder, nous aurons à dire pourquoi, et ce qu'est maintenant l'autorité vis-à-vis de gens qui sont sauvés et qui ont écouté l'évangile, évangile de la gloire du Dieu bienheureux, et qui sont appelés au bonheur de connaître vis-à-vis du Dieu souverain cette liberté qui est par ailleurs celle des enfants. C'est en effet donné aux Éphésiens, à ces Éphésiens qui avaient été instruits de choses si excellentes, tout ce que contient l'épître aux Éphésiens. C'est le niveau le plus élevé du christianisme. Il n'est pas besoin d'y insister. Mais voici que on voulait les rabaisser, les ramener à la loi, et on s'occupait alors, il y avait là, de ces gens à qui il fallait fermer la bouche, et qui réduisaient la loi divine et toutes ses exigences à, au niveau de simples traditions, avec des obligations nouvelles qui s'y ajoutaient et qui insistaient à la fois sur la loi et sur ses traditions. Et il fallait que tout fût bien mis en lumière, et c'est ce qui est fait là dans la première partie de cet épître.
Cette question de commandement de Dieu, c'est, sauf erreur, la seule épître où Paul se présente ainsi, selon le commandement de Dieu. Dans plusieurs autres épîtres, dans la seconde, et puis dans les deux épîtres aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Colossiens, il est selon la volonté de Dieu. Il y avait là aussi des choses à établir, des doctrines à donner, si on pense aux Éphésiens et aux Colossiens. Il y avait chez les Corinthiens une autorité nécessaire pour mettre en ordre bien des choses qui n'allaient pas, et l'apôtre se présente comme apôtre selon la volonté de Dieu. Dans l'Épître aux Galates, ou alors plus qu'elle partout ailleurs, il s'agissait d'agir avec autorité, les choses sont précisées de façon plus nette encore, de la part de Dieu, et non de la part des hommes. Toute contradiction est absolument mise de côté. En contraste, quand il s'adresse aux Philippiens, où il s'adresse à eux avec, non pas pour établir certains points de doctrine, ni spécialement pour régler certaines questions, mais dans une épître pleine d'affection, alors c'est simplement Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ. Il n'y a pas une autorité invoquée, il y a là une simplicité, une fraternité, dirions-nous. Comme quoi, jusque dans la façon dont Paul se présente, tout est en harmonie avec ce qu'il va présenter par la suite.
Donc, d'user d'autorité vis-à-vis de certaines personnes qui enseignaient des doctrines étrangères et on les mettait en garde contre cet enseignement de doctrines étrangères et contre cet attachement à des fables et aux généalogies interminables de ces choses qui suscitaient continuellement des contestations, des disputes intellectuelles surtout, faussement pieuses à Éphèse et ailleurs. Et cela produit, dit-il, des disputes plutôt que l'administration de Dieu et qui est par la foi. Et d'autre part, alors, on trouve plus loin ceux qui, s'étant écartés, se sont détournés à un vain Babil. Il ramène cela au même niveau que toutes ces discussions stériles qui précèdent, mais ici il s'agit de gens qui veulent être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni sur quoi ils insistent. Alors le grand contraste est là établi. D'abord, ce qu'est l'ordonnance, le commandement donné à travers Timothée par l'apôtre lui-même à ses croyants d'Éphèse, et dont la fin, je répète, l'objet, l'aboutissement, c'est l'amour. C'est l'amour, la chose capitale, ce qui donne, ce qui enveloppe tout. L'amour. Et alors, nous avons de quoi procède l'amour, le caractère qui accompagne alors, ou les caractères qui non seulement accompagnent l'amour, doivent être manifestés en même temps qu'un véritable amour, mais dont l'amour lui-même procède. J'entends, ou nous entendons, dans le croyant, dans les croyants, ce qui leur est à la fois demandé et qui est mis à leur disposition, ce qui est le propre de la vie du croyant. Et alors, c'est les trois caractères qui nous sont présentés immédiatement après, c'est-à-dire l'amour qui procède d'un cœur pur, donc un cœur sans mélange, un cœur tout entier pour Dieu, un cœur pur et d'une bonne conscience finalement, une conscience qui peut avoir conscience que de la purification qui était nécessaire et qui a été opérée du cœur. Un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère qui est à la base, on peut dire, de tout cela. La foi, non pas une foi extérieure se manifestant bruyamment et qui peut être une foi tout à fait vaine, Votre foi est vaine, dit l'apôtre aux Corinthiens. Mais une foi sincère, sans cire, sans rien qui vienne donner quelque chose de factice à la place de la réalité. Et la foi, eh bien, la chose fondamentale pour que le cœur soit pur, pour que la conscience soit bonne, et pour que l'amour puisse se manifester, se développer, agir dans sa puissance, qui est la puissance de l'esprit, esprit d'amour, de conseil.
En lisant les différents passages où il nous est parlé du ministère de Timothée, on peut se rendre compte que Timothée a été appelé à servir Dieu dans quatre grandes villes où se trouvaient quatre grandes assemblées. Tout d'abord à Corinthe, et l'apôtre Paul nous dit ceci: « Je vous ai envoyé Timothée, en Corinthiens 4, verset 17, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, qui est fidèle dans le Seigneur. Il vous fera souvenir de mes voies en Christ, selon que j'enseigne partout, dans chaque assemblée. » Nous avons là un premier but du service de Timothée, c'était d'enseigner et de rappeler les enseignements de l'apôtre tels qu'ils étaient énoncés dans toutes les assemblées. Nous avons ensuite Philippe. À Philippe, comme il est écrit au chapitre 2e, « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin que moi aussi j'aie bon courage quand j'aurai connu l'état de vos affaires, car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne. » Philippiens 2, 19. Là, Timothée allait manifester une sollicitude particulière pour les frères à Philippe. On peut manifester une sollicitude pour toutes les assemblées de Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul réalisait. On peut avoir spécialement à cœur le bien d'une assemblée, et c'est ce que Timothée réalisait à l'égard de Philippe. La troisième localité est Thessalonique. À Thessalonique, au chapitre 3 de la première épître, il est écrit ceci, « N'y tenant plus, nous avons trouvé bon d'être laissés seuls à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et compagnon d'œuvre sous Dieu, dans l'évangile de Christ, dans quel but? Pour vous affermir et vous encourager touchant votre foi. » Et enfin, nous avons le Éphèse, ce qui est mentionné dans notre épître. « Je t'ai prié de rester à Éphèse. » Et pour quelle raison? Eh bien, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères, de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes. Nous avons là la mention de fausses doctrines qui sont appelées par l'apôtre lorsqu'il prend congé des frères, des anciens à Milet. Il parle de doctrines perverses. Ici, il est parlé de doctrines diverses et étrangères. Et on est, pour ainsi dire, rejeté sur la grâce de Dieu. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Les fausses doctrines, il y en a beaucoup, elles sont mentionnées au pluriel. Quand il s'agit de la bonne doctrine, elle est mentionnée au singulier. Il n'y a qu'une bonne doctrine, une saine doctrine, un saint enseignement. Alors, on se laissait aller à toutes sortes d'idées qui étaient au fond le produit de l'imagination humaine. C'est pour ça qu'elles n'avaient aucune valeur, ces fables, ces généalogies interminables par lesquelles on croyait, en montant d'échelon en échelon, arriver pour ainsi dire à Dieu lui-même. C'était ces fables, ces généalogies interminables qui ne produisaient que des disputes de mots. Alors que le bonheur du chrétien est de recevoir les pensées de Dieu par la foi, cette administration de Dieu, ce que Dieu administre par sa grâce, dont l'évangile est l'expression. Voilà ce que nous avons à rechercher, cette administration de Dieu qui est par la foi, à laquelle notre foi s'attache.
Une foi simple. Il ne s'agit pas ici proprement de ce qui est désigné par le même mot « foi », c'est-à-dire la saine doctrine, la vraie doctrine, mais ici cette faculté nouvelle qui est le propre du croyant, c'est un don de grâce, mais de croire non seulement en Dieu, mais de croire en Jésus-Christ comme le sauveur des hommes, comme notre sauveur personnel, et ensuite de la foi qui se confie en Dieu, qui a confiance en Dieu, qui garde confiance en Dieu, qui estime Dieu toujours fidèle. Disons souvent, le propre de la foi, c'est de toujours compter sur la fidélité de Dieu. Et c'est là son appui, sa force, croire ainsi, et c'est cela suppose, je répète, une foi simple, mais simple, elle est capable d'entrer, de marcher dans la lumière où Dieu nous a placés, dans la lumière où Dieu nous voit tous, et selon laquelle nous ne marchons pas toujours, nous le savons bien. Et c'est ainsi que, par la foi, le cœur est assuré, la bonne conscience est là. Sans foi, il n'y a rien. Et l'administration dont il a été parlé, c'est celle de la foi. La foi personnelle, la foi continuelle, la foi dans les toutes petites choses, dans les choses humbles de la vie, comme dans les grandes circonstances, les grandes épreuves, partout, une foi aussi humble, aussi simple que des croyants ont été appelés à la manifester. Parce qu'alors l'Épître, nous le savons aussi, a une portée pratique remarquable, comme la deuxième partie de l'Épître aux Éphésiens. Mais c'est tout à fait remarquable. Alors, il y a d'autre part alors les enseignements de la loi, les enseignements de ces docteurs qui prétendaient en savoir plus que les autres sur la loi de Moïse, qui l'enseignaient, mais qui l'enseignaient de telle manière que cela tournait à un vain Babil, là encore des contestations humaines, alors que le véritable objet de la loi était laissé de côté. L'habileté de Satan est grande, qui sait employer la parole même de Dieu et la loi de Dieu pour détourner les âmes de sa puissance à lui, et placer ainsi la loi et ses exigences, j'entends la loi de Sinaï, et ses exigences à la fois pour flatter les pensées, l'orgueil, la présomption de ceux qui pensaient avoir accompli la loi, qu'il s'agisse du jeune homme riche, qu'il s'agisse de Paul lui-même, observateur de la loi de ses pères, comme il le rappelle dans le chapitre 3 de l'Épître aux Philippiens, entre autres, eh bien, il pensait pouvoir s'approcher de Dieu. Et Satan lui disait, mais oui, tu peux bien, tu vois, tu as accompli la loi, et Dieu peut te recevoir. Illusion, la conscience ne peut pas être tranquille, l'homme reste pécheur, bien sûr. Et d'autre part, présentant la loi comme si terrible et impossible effectivement à accomplir, telle que forcément on allait au-devant du jugement de Dieu, la frayeur, une frayeur satanique était inspirée par une loi qui pouvait pourtant révéler ce qu'était Dieu à une nation sauvée. Et alors, l'apôtre dit, mais la loi, je ne dis pas que la loi soit mauvaise, ailleurs il pourra dire, ben, elle est parfaite, elle est bonne, mais il faut l'employer comme il convient. Et employer la loi légitimement. Qu'est-ce que c'est que quelque chose de légitime? C'est quelque chose qui est fait selon la loi. Qui est fait selon la loi. Selon la véritable portée d'une loi. Eh bien, la loi, si elle est légitime, si elle est légitimement employée, se tourne évidemment contre tous les caractères de l'homme loin de Dieu, de l'homme pécheur, depuis les péchés les plus grossiers jusqu'aux plus excusables aux yeux des hommes. Et alors elle nous est présentée ici sous son vrai caractère, c'est-à-dire impitoyable, exigeante de la part de Dieu, mais il y a une impossibilité absolue, foncière, pour l'homme à l'accomplir, et c'est le péché qui est attaché à lui-même.
Aujourd'hui, nous ne courons peut-être pas beaucoup le risque d'être fourvoyés par des enseignements exactement semblables à ce qui était le cas alors. Cela ne veut pas dire que ces versets ne nous concernent pas. Et nous courons le risque alors, parfois, et disons-le d'une manière directe, que dans nos réunions, et en particulier lorsqu'il s'agit de réunions d'entretien, d'avoir aussi des points sur lesquels on discute, sur un mot, sur quelque chose qui n'est pas fondamental et qui amène des discussions stériles. Les versets 3 et 4 sont un avertissement aussi pour nous. Nous devons le prendre de la part du Seigneur. Au sujet de l'amour mentionné au verset 5e, on pourrait se poser la question, l'amour qui procède d'un cœur pur, quelle est donc la source de l'amour? Serait-ce mon cœur s'il est suffisamment pur? Certes pas, l'amour est de Dieu, mais Romains 5 nous dit qu'il est versé dans nos cœurs. Et si nos cœurs ont été vraiment purifiés par la parole de Dieu, s'ils sont purifiés d'une manière continuelle, cet amour qui continue à être versé dans nos cœurs, qui donc découlera de nos cœurs vers notre prochain, vers notre frère, notre sœur, vers celui avec lequel nous sommes en contact, ne sera pas altéré. Alors ce sera ce véritable amour venant de Dieu et non altéré dans nos propres cœurs par des sentiments peut-être non purifiés. La somme de la loi, c'est l'amour. Le chapitre 13 de l'Épître aux Romains nous le dit, Jacques nous le dit aussi. Et ici, le but de cette ordonnance, la fin, c'est-à-dire ce à quoi cette ordonnance doit amener, c'est amener Timothée premièrement, mais tous ceux auxquels il s'adresse, à réaliser cet amour, qui est bien en contraste alors avec la loi sous ce caractère de « fais ceci, ne fais pas cela ». Et est-ce que nous courons pas aussi le risque d'utiliser la loi, non plus cette loi de Moïse pour nous justifier, mais ce principe de légalisme, et s'il y a cette bonne conscience qui se plaît à se mettre à l'aise devant Dieu, ayant laissé la parole y opérer profondément, s'il y a cette foi sincère qui s'attache à l'objet de cette foi, et il ne sera pas nécessaire d'avoir tant de ces ordonnances, mais la juste exigence de la loi sera déjà accomplie si nous marchons non pas par la chair, mais selon l'esprit, selon Romains chapitre 8. Et dans cette liberté chrétienne, la vie de Christ sera manifestée sans qu'il soit nécessaire d'établir des « ne fais pas, ne touche pas, ne goûte pas » ce que nous avertit le chapitre 2, la fin du chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. La loi est bonne si quelqu'un en use légitimement cette loi de Moïse qui démontre la culpabilité de l'homme, et elle peut être encore utilisée aujourd'hui pour celui qui prétendrait à une propre justice. Et c'est là encore qu'on aurait le droit vis-à-vis de quelqu'un venant à notre contact qui prétendrait ne pas être coupable devant Dieu, citer les versets de la loi que nous connaissons, qui démontrent l'entière culpabilité de l'homme et son état irrémédiable. C'est là l'usage légitime de la loi pour aujourd'hui.
Entendu, et l'apôtre suppose cela, à n'en pas douter, que au point de départ, pour les individus, il y a la conversion, il y a la nouvelle naissance, qu'il s'agit ici de gens dont le cœur a été purifié, et dont la conscience a été purifiée, et qui sont là, sur le pied, d'une foi véritable. Alors ils sont exhortés, nous sommes exhortés à pratiquer cela, à appliquer cela, à vivre de la vie nouvelle qui est la vie de Christ. Le vieil homme se trouve condamné continuellement, lui. Mais nous avons parce que, comme le Seigneur dit à ses disciples, vous êtes nets par la parole que je vous ai dite. Nous avons été placés dans des relations avec Dieu qui sont des relations toutes nouvelles. Je crois qu'il est utile que nous insistions sur ce point-là auprès d'âmes qui pourraient être troublées. Et il s'agit bien de croyants qui, s'étant sur un fondement inébranlable, leur position en Christ, sont appelés à manifester ici-bas et qu'ils ont une vie nouvelle qui est la vie de résurrection, la vie de Christ en eux. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Le croyant est mis en relation, il est associé, on pourrait dire, associé avec Christ lui-même, avec Dieu lui-même. Et c'est ce qui sera manifesté un jour, quand nous serons débarrassés de nos corps d'infirmité, où il n'y aura plus ce corps qui est toujours le corps mortel. Mais notre âme peut jouir dès maintenant du salut, être assurée, mais nous voici placés avec une responsabilité nouvelle, toute différente de celle qu'exigeait une loi, je le répète, donnée à une nation déterminée, qui avait été sauvée, mais sauvée extérieurement, temporairement. Il ne s'agit pas là du jugement éternel et de la délivrance du jugement éternel. Sans cela, tout Israël serait sauvé, nous savons ce qu'il en est. Mais pour le croyant, aujourd'hui, quelle part est la sienne et quelle est alors sa responsabilité de faire de telle sorte que l'on connaisse, que l'on voit autour de lui, qu'il vit d'une autre manière, il vit autrement que le monde, il vit là d'autres pensées que les pensées de la chair. Ça est tout simple à formuler, beaucoup moins à mettre en pratique, et pourtant c'est fondamental.
Quelquefois, on minimise l'importance de la loi, et on a raison de dire que le chrétien n'a plus rien à faire avec la loi. Nous venons d'entendre ce que la grâce de Dieu a fait pour le croyant, et certainement que la loi n'a rien à faire dans une telle œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme. Mais maintenant que le chrétien est là, il a reçu une vie nouvelle, il a des commandements auxquels il a à se soumettre. Ce ne sont pas les commandements du Sinaï. L'apôtre Jean nous dit, ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont les commandements de la grâce. Et à cause de cela, ces commandements ne sont pas pénibles. Mais ce sont des commandements auxquels nous avons à nous soumettre. C'est une manifestation de la vie de Dieu en nous que cette soumission aux commandements de la grâce, que la grâce énonce, que la grâce enseigne, des commandements qui ne sont pas pénibles.
Le Seigneur l'a répété à ses disciples, et l'apôtre Jean peut le répéter, c'est de nous aimer les uns les autres comme Christ lui-même nous a aimés, et Christ nous a aimés comme son Père l'a aimé. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de limite à cela. Et c'est pourquoi il est bien parlé de l'amour qui procède de tout cela, dans la pratique pour nous, bien sûr.
Notre Pierre, au début de sa première épître, nous dit que nous avons été élus, selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc pour l'obéissance de Jésus-Christ. Et voilà le commandement. Voir Jésus, vivre Jésus, suivre Jésus, et que vraiment cette vie de Christ, de notre Seigneur Jésus-Christ, soit en nous. Et en effet, le commandement ne sera pas pénible. Le cœur s'attache à l'objet qui le remplit.
Le docteur qui était là, les babillards, comme ils sont appelés, n'est-ce pas, le vin Babil, étaient en réalité des gens qui pervertissaient la loi, qui la changeaient de caractère. Et ne pas oublier à ce propos qu'il y a des étapes différentes dans l'histoire de l'humanité, des dispensations différentes. Et il y a eu avant le déluge, il y a eu avant la loi, il y a eu la loi pour un peuple. Et ensuite, le christianisme, il y aura dans l'avenir un retour à une loi relative à une nouvelle alliance. Il y a autant de phases qui sont caractérisées chacune d'une manière spéciale. Et alors, confondre le règne de la loi avec le règne aujourd'hui de la justice par la grâce, c'est ou la grâce régnant par la justice, c'est introduire beaucoup de confusion. Mais si nous comprenons que à chaque étape, on peut dire, de l'humanité, Dieu a donné ce qui était nécessaire pour qu'il soit connu, Dieu ne s'est jamais laissé sans témoignage. Eh bien, et il a donné le nécessaire pour qu'il y ait une foi qui s'attache à ce qui a pu être connu de Dieu. Eh bien, il y a eu un temps où précisément la loi avait son utilité particulière, son utilité à la fois pour l'individu et pour la nation, et qui était bien une loi divine, la seule qui ait été donnée avec tant de précision, de détails, avec la loi cérémonielle aussi bien que la loi morale, la loi des 10 commandements, tout cela était de Dieu. Et Dieu ne donne jamais quelque chose d'inutile. Dieu ne fait jamais quelque chose d'inutile. Et s'il a donné la loi, c'est parce que il le fallait, et il le fallait à ce moment-là. À ce moment-là, il le fallait pour que fût mise en évidence le véritable état moral de l'homme. Et c'est là l'objet et le résultat l'expérience de la loi, l'expérience d'humanité faite par la loi de Dieu. Ça reste valable pour ceux qui emploient la loi légitimement, c'est-à-dire la loi qui condamne. Mais alors, on est amené à la repentance, on est amené à reconnaître que l'on ne peut pas la garder, et alors nous entrons dans un monde nouveau, on peut dire, et c'est un nouveau règne, ce règne de la grâce, et qui n'excuse pas davantage le mal, bien au contraire, qui nous montre le mal dans toute son horreur, le bien dans toute sa beauté, le bien à notre disposition, parce que nous avons maintenant une nouvelle vie, insistons là-dessus, et la responsabilité, par conséquent, de répondre à cela. Et il ne faut pas s'imaginer que Dieu fasse quelque chose sans raison, sans but. Et il semblerait pour certains que la loi soit une distraction de Dieu, quelque chose d'inutile à l'humanité. Et en tout cas, aujourd'hui, la notion de bien et de mal disparaissant, hélas, au moins dans une bonne partie de l'humanité, malheureusement, c'est l'humanité dite christianisée. La loi ne peut que s'appliquer de la manière la plus effrayante à cette négation du bien et du mal. C'est une chose très importante de considérer les choses de cette façon-là. Donc, la loi de Dieu a son champ propre, son application propre. Il s'agit de la faire légitimement.
Elle n'est pas pour le juste, mais est-il dit au verset 9, elle est pour les iniques et les insubordonnés, précisément les personnes qui ne reconnaissent aucune autorité. Les iniques, ceux dont la marche est sans loi, sans frein, les insubordonnés, ceux qui ne reconnaissent aucune autorité. Ce sont les premières catégories d'hommes pécheurs qui sont mentionnées, les insubordonnés, les iniques. Et puis, il y a différentes formes de mal, et l'apôtre termine en disant « Et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié ?» Nous avons là une vérification de ce qu'on disait tout à l'heure. Au verset 3, « Des doctrines étrangères » au verset 10, « La saine doctrine ». Parmi ces différentes formes de mal, un mal effrayant, il est parlé de voleurs d'hommes. Est-ce qu'on ne peut pas dire que il y a encore quelques années, eh bien, on se serait demandé ce que voulait dire cette forme de mal des voleurs d'hommes? Est-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, nous ne serions pas posé des questions, nous disant, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et n'est-il pas frappant que nous devions arriver dans des temps où alors, hélas, nous devons connaître ce que c'est que ces raptes d'hommes, d'individus, en général d'hommes haut placés, ces raptes en diverses nations, cette notion voleur d'hommes nous devient parfaitement claire. N'est-il pas frappant aussi que la loi prévoyait déjà le cas d'un homme qui pouvait voler la personne de son prochain? N'est-il pas écrit dans le livre de l'Exode, au chapitre 21e, au verset 16, « Si quelqu'un vole un homme et qu'il le vende ou qu'il soit trouvé en sa main, il sera certainement mis à mort. » la loi était absolument implacable à l'égard d'un cas semblable. Il est frappant, nous dirions même impressionnant, de penser que nous devons connaître des choses semblables aujourd'hui, voleurs d'hommes. Eh bien, la loi est pour cela, et pour bien d'autres, et pour tout ce qui s'oppose alors à la saine doctrine suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux.
La saine doctrine est donc mise immédiatement en relation étroite, en unité, on peut dire, avec l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Un glorieux évangile. L'évangile de Dieu lui-même et d'un Dieu bienheureux. Ah, ce n'est pas le Dieu qui veut la mort du pécheur. Et le péché entraîne la mort. Et la justice de Dieu, ou un aspect de la justice de Dieu, serait accompli par un jugement sans miséricorde. Mais un aspect seulement, parce qu'on ne peut pas séparer le Dieu d'amour du Dieu de lumière. Eh bien, voici l'évangile de la gloire d'un Dieu bienheureux. Et l'apôtre va pouvoir rendre grâce de ce que il a été un instrument pour propager, diffuser, prêcher cet évangile. L'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. L'évangile de la gloire présente de Christ, glorifié dans le ciel par le Dieu bienheureux, et parce qu'il a accompli l'œuvre de notre salut. Et l'apôtre pouvait rendre grâce de ce que il avait été fortifié. Et c'est Jésus lui-même, présenté ici comme notre Seigneur, toujours la même pensée de l'autorité. Jésus, notre Seigneur, et qui m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle. L'apôtre peut d'ailleurs se donner comme exemple, soyez mes imitateurs, comme moi aussi je suis le Christ, mais c'est au Seigneur qu'il appartenait et de dire s'il avait été fidèle ou pas.
Est-ce que de telles expressions ne font pas ressortir la grandeur de l'Évangile? Est-ce qu'il n'est pas bon d'insister sur de telles expressions en un temps où l'on court le danger de vulgariser l'Évangile de telle sorte qu'il n'est plus présenté avec la dignité qui convient à tel Évangile? L'expression « l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux », quand nous annonçons l'Évangile, est-ce que nous avons conscience que c'est l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux que nous présentons? Est-ce que par cette seule expression, nous n'avons pas toute la grandeur de l'Évangile de Dieu qui est placée devant nous? Et ensuite, comme on vient de le rappeler, l'apôtre pouvait rendre grâce, parce que cet évangile lui avait été confié, « Je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur. » Précisément, cette personne, digne de toute adoration, qui est présentée par l'évangile, que nous présentons quand nous annonçons l'évangile. Nous avons besoin d'être gardés de ce danger de vulgarisation excessive, même extrême, dans la présentation de l'évangile, et ne jamais oublier qu'il est l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Comme notre frère l'a dit au début de la réunion, le Dieu bienheureux, le seul à posséder le bonheur, le vrai bonheur en lui-même, le seul qui puisse avoir une telle épithète, le Dieu bienheureux, et alors, mystère de la grâce, Dieu bienheureux a voulu rendre participants de son bonheur des pécheurs morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. Voilà le grand propos de la grâce de Dieu, rendre participants à son propre bonheur, le bonheur du Dieu bienheureux, des pécheurs incapables par eux-mêmes d'accéder à un tel bonheur.
Paul avait pleine conscience de cette dignité de l'Évangile. Dans le passage d'Éphésiens 3, où nous trouvons quelques pensées analogues, où lui, le moindre de tous les saints, et rend grâce de ce qu'il lui a été donné, de donner à connaître parmi les nations, comment caractérise-t-il ce qu'il donne à connaître ? Les richesses insondables du Christ. Voilà ce qu'était pour Paul, n'est-ce pas, l'Évangile. Ici, l'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. D'ailleurs, donner à connaître les richesses insondables du Christ.
L'Évangile de la gloire du Dieu bienheureux. En effet, quelle dignité doit s'attacher à l'Évangile et à la présentation de l'Évangile. Il est bon d'y insister. Les Philippiens étaient exhortés à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Et ce terme employé là est bien évocateur, n'est-ce pas ? Non seulement marcher honnêtement, sobrement, pieusement, de façon à rendre un bon témoignage aux yeux des hommes, mais d'une manière digne de l'Évangile. Ça suffit à évoquer cette dignité excellente, cette noblesse au-dessus de tout, parce qu'il s'agit de quelque chose de divin, la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, dans le premier chapitre des Romains. Ici, l'Évangile de la gloire. L'Évangile qui, la bonne nouvelle, qui reste du domaine de la foi, nécessaire pour s'emparer de cette bonne nouvelle en écoutant la parole, mais dont l'accomplissement sera dans la gloire, qui est la gloire du Dieu bienheureux, la gloire dans laquelle nous sommes appelés à entrer. Et cela n'a rien de commun avec tant d'expressions des hommes rabaissant, dégradant la dignité de l'Évangile. Je crois qu'il est bon d'attirer l'attention, et particulièrement de la jeunesse là-dessus, dans les temps où nous sommes. Il peut y avoir bien des manières, bien sûr, d'annoncer l'Évangile. J'entends l'Évangile sous la forme de l'appel aux âmes, parce qu'il ne se limite pas là. L'Évangile va plus loin. L'Évangile embrasse toute la vie chrétienne, mais même en prenant le terme dans le sens de l'appel des âmes, le besoin, la nécessité de toucher les consciences et les cœurs, on ne peut qu'être frappé de la manière dont la parole en parle, et d'autre part, hélas, de la manière dont il se trouve rabaissé, dégradé, on peut dire, par l'emploi de procédés qui sont les procédés de publicité du monde, ni plus ni moins, ou à peu près, et par des expressions volontairement vulgaires sous prétexte d'être mieux comprises, alors que ce n'est pas le cas, et qui finissent par ébranler la confiance même de ceux qui pourraient être amenés, en disant, bien, c'est semblable à telle ou telle doctrine qu'on m'enseigne, et finalement, on est accessible à toutes les fables, à toutes les perversions de la loi, aussi bien qu'à cette dépréciation de l'Évangile qui doit être revêtu d'une telle dignité. L'apôtre Paul avait été établi pour ce service. Établi pour ce service. Et il avait persévéré, il avait été soutenu par le Seigneur lui-même, mais ayant besoin continuellement d'être enseigné, d'être repris lorsqu'il le fallait, d'être dirigé lorsque il allait dans d'autres régions, où il se dirigeait vers d'autres régions que celles où il devait prêcher, etc. Et alors, il peut dire, il m'a fortifié, notre Seigneur m'a fortifié de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, et alors il peut rappeler ce qui était pour lui continuellement, le rappel à l'immensité de la grâce qui s'était occupée de lui alors qu'il était si loin qu'il blasphémait, si loin qu'il persécutait l'assemblée, si loin qu'il pensait qu'il fallait faire beaucoup contre le nom du Seigneur Jésus. Et quand il est dit plus loin qu'il était un blasphémateur, il était un outrageux, mais que miséricorde lui avait été faite. Le mot de miséricorde nous apparaît ici dans toute sa valeur, toute sa force. C'était un cœur misérable et qui se croyait un cœur parfait. Un cœur misérable dont Dieu avait compassion, que le Seigneur appelait, que Dieu tirait du sein de tant de d'illusions, de mensonges, d'ignorance, d'incrédulité. Et miséricorde lui a été faite. Non pas, l'emploi du terme ici n'implique pas que Dieu l'excusait qu'il fût ainsi ignorant, incrédule. Non, non, ce n'était pas parce qu'il était ignorant qu'il était plus digne de grâce, encore moins parce qu'il était incrédule. Et c'était une ignorance incrédule que celle-là, c'était l'ignorance qu'il partageait avec le peuple qui avait rejeté et rejeter volontairement et rejeter sciemment le témoignage du Saint-Esprit à l'égard de Christ. Paul était témoin, un témoin à charge contre Christ, déposant ses vêtements aux pieds de ceux qui l'exécutaient, la lapidation d'Étienne, n'est-ce pas, au chapitre 8. Il était de ceux qui avaient frémi de rage. Au fond, sa conscience parlait, à n'en pas douter, parce qu'elle était là, tourmentée par un effet de la grâce et de la miséricorde, de telle façon qu'il pourra dire plus tard, rappelant la scène de Damas, « Il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Il y a eu des aiguillons et tu as regimbé. » Mais il a regimbé de telle manière que, vraiment, il s'était montré blasphémateur, outrageux. Ignorant, mais ignorant volontaire, ils ignorent volontairement ceci. Tout avait été mis devant eux. Ils ont vu, et moi, et le Père, dit Jésus, en parlant de ceux qui allaient le condamner. Ils ont vu assez pour être persuadés. Ils ne l'ont pas été. Alors Dieu passe par-dessus les temps de l'ignorance, chapitre 17 des Actes. Dieu passe par-dessus les temps d'ignorance. Et c'est sa patience qui a supporté des hommes jusque-là, et les hommes de son peuple, et son peuple lui-même est si désobéissant, et qui a tiré alors du sein d'un tel peuple, et qui a tiré finalement aussi de toutes les nations, des objets de miséricorde, des vases qui étaient tout préparés pour la destruction, et qui se trouvaient être des vases de miséricorde, de pure miséricorde.
Puisque on nous rappelle le passage, il t'est dur de regimber contre les aiguillons. Si l'on demandait ce que signifie cette expression, les aiguillons, serait-il juste de parler de la parole même de Dieu qui se faisait entendre à lui? Dieu lui parlait en nous souvenant de ce qui est dit dans le livre de l'Ecclésiaste tout à la fin, les recueils des sages sont des aiguillons. Et les pensées des sages et les recueils des sages sont des clous enfoncés. Dans cette pensée-là, de la sagesse même de Dieu, d'un Dieu qui parle, de telles pensées sont des aiguillons. Est-ce que l'on peut penser que dans ce passage, sur le chemin de Damas, Saul de Tarse a eu affaire à de tels aiguillons, la parole de Dieu le pénétrant?
Je pense, très certainement, très certainement. Dieu parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Voilà. Voilà ce que disait Élie à Job, n'est-ce pas? Dieu parle une fois, on n'y prend pas garde. Bien, on laisse de côté ce qui devrait parler à la conscience. Heureusement, si la grâce de Dieu opère en quelqu'un, elle produit finalement la repentance à salut. Mais qu'est-ce qui est reproché aux juifs prétentieux chapitre 2 des Romains, n'est-ce pas? Et ils méprisent la parole de Dieu. Ils ne voient pas que Dieu le pousse, que la bonté de Dieu le pousse à la repentance. Alors c'est qu'il est coupable. Et ce sont bien des aiguillons, en effet, que Dieu dirige vers une conscience, et la conscience cuirasse sous l'effet du péché. Mais nous touchons là, par ailleurs, au mystère même de la grâce de Dieu, nous dirions du mystère de l'élection, et nous n'allons pas plus loin que ce que nous dit ici la parole. J'étais un ignorant, un incrédule, blasphémateur, outrageux. Qu'est-ce qui l'a arrêté? La parole. La parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Et mais il y a eu la voix. Quelqu'un qui parlait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Et cette voix vient de la gloire. C'est la gloire de Dieu qui est là. Et dans cette gloire, il y a le persécuté. Celui auquel Saul avait tant résisté. Il donnait sa voix lorsque on condamnait à la prison et à la mort des chrétiens. Mais antérieurement, il avait été, écoutant les paroles d'Étienne et n'en voulant pas, les repoussant en grinçant les dents lui aussi. Et pourtant là, il avait entendu de ses oreilles. Et il avait choisi la haine contre Jésus le Nazaréen. C'est moi que tu persécutes et que tu persécutes dans ceux qui m'appartiennent. Alors il a vu le Seigneur lui-même dans sa gloire. Et lorsqu'il a porté ensuite, après ces trois jours de ténèbres qui ont suivi ses regards sur le monde, il l'a vu d'une toute autre manière. Il l'a vu sous un tout autre jour. comme à travers une toute autre vitre. Et ce n'a été fini pour l'ancien Saul de Tarse. Cette conversion est magnifique, bien sûr, elle nous révèle ce qu'est la miséricorde. Dieu, miséricorde m'a été faite à moi, qu'est cela.
Et il le dit deux fois, n'est-ce pas? Au verset 16, il rappelle encore cette miséricorde en toute sa beauté, mais miséricorde m'a été faite. Il ne dit pas seulement une fois, mais miséricorde m'a été faite. L'apôtre Paul est demeuré parfaitement conscient de l'immensité de la miséricorde de Dieu à son égard, et c'est bien pour cela qu'il peut dire, moi, on le verra un peu plus loin, Dieu voulant, moi qui suis le premier des pécheurs, eh bien, un tel homme, miséricorde a été faite, on comprend qu'il le dise deux fois. Est-ce que le souvenir d'avoir persécuté l'assemblée de Dieu n'a pas suivi péniblement l'apôtre Paul tout au cours de son service? En 1 Corinthiens 15, il peut dire « Je suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'assemblée de Dieu ». En Galates 1, il dira « Je persécutais outre mesure l'assemblée de Dieu et la ravagèrent ». Dans l'épître aux Philippiens, « Quant on zèle, persécuteur de l'assemblée ». Et puis l'autre passage, il semble qu'il y a là toute une suite de passages qui montrent combien ce souvenir, malgré tout, dut être douloureux aux serviteurs de Dieu d'avoir persécuté l'assemblée de Dieu.
Il ne pouvait pas en être autrement, mais ce qui dominait tout, c'était cette miséricorde. Et il peut dire, dans les Corinthiens, n'est-ce pas, au chapitre 3, et c'est pourquoi, ayant reçu ce ministère, comme ayant reçu miséricorde, le ministère qu'il avait reçu, un ministère apostolique, un ministère si grand que, il était aussi grand que Paul pouvait s'estimer, aussi grand que les plus grands des apôtres. Eh bien, il avait obtenu cela, et par miséricorde. Alors il peut dire, c'est pourquoi nous ne nous lassons point. Rien ne le décourage, et en particulier, il ne se laisse pas abattre, comme cela pourrait arriver, par le souvenir de ce qu'il avait été. Il n'en mesurait que davantage la profondeur du mal d'où il avait été tiré. Depuis la gloire, n'est-ce pas? C'est cela qui est magnifique. Pourquoi me persécutes-tu? C'est Jésus glorifié.
Au milieu du verset 13e, ou à la fin du verset 13, « Mais miséricorde m'a été faite parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. » Il ne faut pas comprendre ce « parce que » comme étant une circonstance atténuante. Pas du tout, mais justement pour relever la nécessité de la miséricorde. Il était cet ignorant volontaire qu'on vient d'entendre, et il ajoute à l'ignorance l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le refus du cœur pervers de l'homme, le refus de recevoir ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, ces deux expressions, ignorance et incrédulité, se superposent pour montrer la totale culpabilité de l'apôtre. Et ce n'est que par la miséricorde qu'il a pu être sauvé. Ce n'est donc pas une circonstance atténuante. Et ensuite, alors, il peut relever la grâce. Au verset 14e, une grâce qui a surabondé. Il le dit par ailleurs dans les Romains, là où le péché abondait. La grâce a surabondé, et son cas personnel en est un exemple.
Avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Et la fin de l'ordonnance, ce sera l'amour.